Ici, pas de pitié, pas de casque, même pas de jackstrap. Ça joue rough. Tout pour avoir le dernier mot. Voici les mangeux de pot.
Avec l'abbé Richard de La Presse. Comment allez-vous, mon cher Richard?
Ah, Greg, je vais très bien. J'espère que vous allez bien également.
On se porte à ravir, nous autres. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Fait encore chaud dans le studio. R2D2 est en pleine fonction.
Je m'en suis servi beaucoup cet été du R2D2, d'ailleurs.
Oui, effectivement. C'est vraiment le joueur le plus utile à notre équipe. On le sait. Richard, on va commencer ça en force, mon cher ami. Parce que là, L'heure des prédictions est arrivée. Il reste un seul match préparatoire dans la majorité des cas, peut-être deux là, pour certaines équipes, dont Ottawa, qui vont jouer ce soir à Saint-Louis et après ça à Montréal, avec des alignements de la Ligue américaine. On en reparlera. Mais cela étant dit, nomme-moi autant dans l'Est que dans l'Ouest. Puis commence donc par l'Ouest, tiens, parce qu'on va se garder l'Est pour la suite. Une équipe qui entrera en série et une équipe qui sortira des séries éliminatoires qui y a participé la saison dernière.
Ben écoute, c'est pas facile de faire ça, mais écoute, j'ai lu beaucoup de choses sur les Ducks d'Anaheim récemment, Greg. Et je sais que tu es un fan des Ducks. Ça se peut-tu, ou en tout cas, tu les aimes beaucoup? Tu parles souvent de Mason McTavish.
Je suis un fan de Mason McTavish, mais je ne peux pas être un fan des Ducks. Je m'excuse.
Ah, ok. Oui, parce que tu es un fan. Ah, c'est vrai, tu es un fan des Kings.
Uh-huh.
J'avais oublié. Ben écoute, pourquoi je te parle des Ducks? Parce que de l'avis de tous, et puis là, je lis beaucoup mes collègues là-bas qui sont sur la côte ouest, puis c'est un club qui a la flèche vers le haut, Greg. Ça veut dire que les choses se passent, que les choses, je dirais, le soleil est en train de se pointer dans ce ciel d'Anaheim. Et j'ai le goût de te dire que de 80 points l'an passé, les Ducks vont devenir un club des séries.
Oh là là!
Ouais, j'ai le goût de te dire ça. J'allais dire ce matin, non.
T'es-tu influencé par les signatures de McTavish et Lacombe, là?
T'es un peu influencé par ça, mais un peu influencé par, je vous dirais, tout ce qu'on est en train de faire présentement. J'ai l'impression qu'on est en train de bâtir quelque chose d'intéressant. Puis surtout que dans cette division-là, évidemment, tu sais, les Golden Knights vont être très, très forts. Bon, les Oilers, tu peux pas les oublier tant qu'ils ont un certain McDavid avec eux autres. Puis tu sais, en tout respect avec tes Kings, Greg, je pense que les Kings, il en reste moins qu'il en restait, comme on dit. Alors, je pense que dans cette division-là, c'est relativement envisageable de jouer le rôle de la surprise, de mettre la pantoufle de Cendrillon et de se faufiler quelque part dans le portrait des séries, à cause que cette division-là, à mon avis, à part les deux en haut complètement, je pense que Vegas va être là, les Oilers vont être là, mais je pense que c'est possible de se faufiler quelque part là-dedans dans ce tableau-là.
Alors, l'année passée, la huitième équipe qui s'est qualifiée pour les séries éliminatoires, ce sont les Blues de Saint-Louis.
Ouais.
Là, tu es en train de me dire que les Kings vont sortir, et dans toutes ces équipes-là ultra compétitives dans l'Ouest, tu vois les Ducks passer devant toutes les autres équipes.
Ben écoute, je regarde la Pacifique en particulier. Et tu sais, je pense que l'année passée, il y a trois clubs de la Pacifique qui ont passé. Il y a cinq clubs de l'autre bord qui ont passé dans la centrale. Et j'ai l'impression que, encore une fois, dans la Pacifique, je pense que Vegas est en haut de tout le monde. Marner, là, vraiment, c'est... Les fans des Leafs qui avaient hâte que Marner parte, là, news flash, vous allez vous ennuyer de Marner. je pense que à l'opposé, les fans à Vegas vont l'apprécier énormément. Les Oilers, encore une fois, sont là. Mais à part ça, Greg, dans cette division-là, dans la Pacifique, pour vrai, là, c'est Calgary, les Canucks, le Kraken, les Sharks qui évidemment partent de très loin. C'est quand même ouvert. Puis tu sais, avec tout le respect, j'aime bien tes Kings, Greg. Je les trouve bien sympathiques, surtout à l'occasion quand ils portent leur chandail mauve. Mais il en reste moins qu'il en restait à Andy Kopitar, entre autres.
Ben oui, effectivement, qui a annoncé sa retraite à la fin de la saison qui s'en vient.
Ce serait décevant que Kopitar, dernière saison en Ligue nationale, rate les séries éliminatoires.
Ben, je pense que ça va arriver. Honnêtement, je le dis, avec les signatures qu'on a faites, surtout en défense, les contrats qu'on vient de donner, cette vieille défensive-là, oh, j'ai de la misère à voir ce qui va arriver. Quinton Byfield devrait être meilleur, cela étant dit, et prêt à prendre le rôle du centre numéro un l'an prochain. Mais Richard...
Mais c'est quand même fou parce que je
prends... Docks passer devant Utah, Calgary et Vancouver.
Ouais, le problème là-dedans, là, c'est que sincèrement, je pense que la sixième équipe dans Centrale pourrait être la meilleure que la troisième dans Pacifique. C'est ça, là, en ce moment. Là, parce que dans Centrale, l'an passé, Utah n'a pas fait les séries, mais Utah a continué de s'améliorer durant l'été. J'aime beaucoup la formation de Utah, mais t'es dans une division centrale qui est tellement compétitive, avec Saint-Louis qui a fait les séries l'an dernier, mais qui est bourré de talent, avec le Wild du Minnesota qui, faut pas sous-estimer le Wild, qui a eu de nombreuses blessures la saison dernière, mais qui a quand même participé aux séries éliminatoires. Parce que quand tu regardes le top 3, Winnipeg, Colorado, Dallas, la centrale est bourrée de talent.
Vancouver reste très énigmatique aussi. Pour moi, Utah, c'est mon choix pour rentrer dans les séries cette année comme équipe qui n'était pas qualifiée l'an dernier. C'est le mammoth.
C'est le choix, Greg, le choix sexy de la surprise, je crois, cette année.
Ben moi, je dérange pas, un choix sexy, j'aime ça.
Tu es pas le seul, c'est ça que je veux dire. T'sais, eux, ils partent de moins loin que les Ducks 89 points l'an passé.
Maintenant, allons dans l'Est. Quelle est l'équipe qui va sortir des séries et l'équipe qui entrera en séries éliminatoires cette saison?
Ben là, écoute, on est jeudi, le week-end approche, puis Greg, ça me tente pas d'être celui qui arrive avec des mauvaises nouvelles, mais je vais être obligé d'être ce gars-là pareil.
Non, fais-le.
Je vais être obligé d'être ce gars-là pareil, Greg, pourquoi? Parce que, écoute, j'étais où cette semaine plus tôt? Écoute, je pense que j'étais au musée, et puis...
Musée?
Ouais. Et il y a des partisans qui m'ont approché. Je pense que j'étais devant un tableau de Monet, je ne me trompe pas. Et les gens me disaient, oui, mais Richard, notre ligne de centre. C'est ça qui m'inquiète, Greg.
Étais-tu vraiment au musée à parler de la ligne de centre du Canadien, là, où on donne un show de radio en ce moment?
Un peu des deux, Greg. Un peu des deux. Mais la ligne de centre, Greg... Et puis, tu sais, je me souviens plus, je parlais l'an passé, écoute, c'était pendant la finale, en fait, l'année passée. Puis, tu sais, souvent, on mange avant les matchs, puis tout ça, puis il y a un paquet de monde, les anciens joueurs, puis des diffuseurs, puis tout, c'est toujours bien intéressant. Puis, il y a quelqu'un, Manny, qui m'avait dit, parce qu'on avait un petit débat sur l'importance des gardiens de but, vu que ça faisait deux années de suite que les Oilers se ramassaient en finale avec pas de gardien de but. Et... c'est un ancien joueur, puis là, je me souviens plus c'est qui, mais un des anciens joueurs là, qui est avec les réseaux maintenant, qui me disait, faut arrêter de penser que maintenant, les gardiens de but, il y a été un temps où c'était la position la plus importante. Il disait, maintenant, c'est plus ça. Maintenant, le hockey moderne, c'est la ligne de centre. Il dit, regarde les clubs qui ont du succès. Ces équipes-là ont tous une chose en commun, c'est la ligne de centre. Puis Greg, je regarde la ligne de centre du Canadien. Je regardais les trios ce matin à l'entraînement. Évidemment, on ne sait pas si ça va être ça le 8 octobre, oui ou non. Mais j'ai de la misère à croire que le Canadien va être capable de se faufiler en série avec la ligne de centre que l'on a maintenant. S'il y a des changements en saison, Greg, si c'est Nick Crosby atterrit ici, je vais refaire ma prédiction. Mais en attendant, avec ce qu'on voit... Je ne peux pas imaginer le Canadien de Montréal en série à cause de sa ligne de centre.
OK, donc toi, tu mets les Canadiens qui sortent des séries éliminatoires. Écoute, j'aime ton argumentaire. Moi, je suis persuadé que la ligne de centre ne restera pas de même toute la saison. Je pense que c'est assez clair. Et si on pense que Kirby Dach a un certain potentiel et pourrait éclore dans ce potentiel-là, ben écoute, peut-être que ça sera pas si pire que ça cette saison. Puis là, je me fais l'avocat du diable. Mais quelle équipe vois-tu entrer à la place des Canadiens de Montréal?
Bon, alors là, si on regarde, si on fait le... Ben écoute, je pense que les deux clubs de la Floride vont rentrer, même si Barkov n'est plus là. Même si Marner est parti, on est obligé de garder une place aux Leafs. Écoute, les sénateurs, c'est un. J'ai le goût de prendre un 25 cents puis de le lancer dans les airs. C'est un club que je trouve très mystérieux. Ils vont-tu faire les séries? Ils vont-tu pas faire les séries? Ah, j'ai de la misère vraiment avec les sénateurs. Mais tu sais quoi? Moi, je pense que le club qui va se faufiler quelque part là-dedans, ça va être les Islanders de New York.
Richard, j'ai une question pour toi avant qu'FX, qui est en train de sortir de ses gonds, réponde. J'ai une question pour toi.
Oui.
Ça va-tu?
Je vais attendre les explications de Richard et je vais renchérir par la suite. Pourquoi les Islanders, Richard?
OK, parce que tu vas avoir un Barzal en pleine santé. Ça va être la première raison. La deuxième raison, ça a été un club qui a eu bien du mal sur les unités spéciales l'an passé, les Islanders. Et on a, je pense, réglé ces petites failles-là. Et la troisième raison, c'est pas confirmé, vous me direz. Je pense, en tout cas, j'ai cru comprendre que c'est pas confirmé, mais je pense que Matthew Schaefer va être là va être dans la formation quand la saison va commencer. Encore une fois, à ma connaissance, c'est pas confirmé à 100%, mais en tout cas, je présume qu'il va être là. Et évidemment que le calendrier préparatoire, c'est une chose. Ce ne sont pas des vrais matchs, mais de ce qu'on a vu de Schaefer depuis le début du calendrier préparatoire, c'est un jeune homme qui a l'air excessivement mature, qui a l'air prêt à jouer. Et puis, le genre de joueur qui, à mon avis, malgré son zéro d'expérience, peut faire une différence. Alors, moi, tout ça mis ensemble, puis j'aime beaucoup, évidemment, Mathieu Darche, la direction de Mathieu Darche. Je pense que Patrick Roy est en train de bâtir quelque chose également. Et puis, je pense que par la petite porte derrière, par la fenêtre là, de 8 cm par 10, je pense qu'ils vont se faufiler.
Devant les Canadiens, devant les Blue Jackets, devant les Red Wings et devant les Rangers. Richard est allé avec des opinions, des hot takes, comment on appelle ça? Des opinions
audacieuses.
Audacieuses, effectivement.
Très audacieux.
FX, j'ai jamais vu FX de même depuis le début de la
saison. Non, mais au début, quand j'envoie la question à Richard, parce que dans la préparation de cette émission, j'envoie les questions à Richard, Richard m'envoie ses réponses. Et au début, quand je vois New York Islanders, je lui réponds New York Islanders ou New York Rangers. Et là, il me dit New York Islanders. Et là, écoute, j'en revenais pas. Parce que, mais je comprends tes points, Richard. Puis honnêtement, t'as pas tort à 100%. Puis Matt Barzal, c'est un joueur que j'ai sélectionné à mon premier pool hier parce que Barzal est en santé en ce moment. Puis dans son cas, il faut se croiser les doigts, mais si Barzal est en santé sur 82 matchs, ça peut faire une différence pour les Islanders de New York. C'est juste qu'offensivement, il y a tellement de points d'interrogation. Puis même chose défensivement, devant le filet, Sorokin, un des très, très bons gardiens de but de la Ligue nationale. Mais je regarde la profondeur de cette équipe-là en attaque. C'est Jonathan Drouin, Emil Heinemann, Shabanov. Ben, c'est un pari, c'est un joueur qui était très talentueux en Russie, mais est-ce qu'il peut reproduire ce qu'il faisait en Russie, ici en Amérique du Nord? On en a vu réussir, on en a vu d'autres échouer. Cole Palmieri prend de l'âge, Jean-Gabriel Pageot, même chose. Anthony Duclair, je comprends qu'on a enterré la hache de guerre avec Patrick Roy, mais c'est-tu vraiment les meilleures dispositions pour Anthony Duclair? Moi, il y a tellement de points d'interrogation dans cette équipe-là. Puis défensivement, je regarde la première paire de défense. Je sais pas si ça va être ça pour le premier match de la saison ou la deuxième paire. Bref, je vois Tony DeAngelo dans un top 4 en défense. Puis je me dis défensivement, pas certain que vraiment que ça va cliquer tant que ça. Matthew Schaefer, c'est une bougie d'allumage, je crois. Je crois qu'il va débuter la saison à New York. Puis si c'est le cas, ce sera une bougie d'allumage pour les Islanders.
Je vois pas comment tu vas le descendre.
Non, mais c'est une première saison quand même dans les rangs professionnels. Moi, j'ai tellement de points d'interrogation sur cette équipe-là. J'aurais pris le pari, je pense, des Blue Jackets avant ça, avec la saison de l'an dernier.
Les Rangers.
J'aurais pris le pari des Rangers avant ça également, quoique je pense pas que les Rangers vont faire les séries cette année.
Ouais.
Mais je comprends ce que tu me dis, là.
Puis les Rangers, honnêtement, moi, je pense qu'on en parlait, les gars, récemment, mais moi, les Rangers, là, je n'achète pas rien de cet enthousiasme. Moi, je trouve que c'est tout croche.
Moi de la non façon plus, mais j'achète pas plus celui des Islanders. Là.
Mais t'achètes quoi d'abord?
Ben, j'achète les Canadiens avant. Tu dis qu'on n'a pas fait les séries l'année passée. On a fait les séries avec une ligne de centre On a une ligne de centre qui est pas bonne. On a fait des séries avec quelle ligne de centre l'année passée? C'était Newhook qui jouait deuxième centre, Dvorak qui était troisième, même Jake Evans, puis t'avais Dvorak qui on s'interchangeait un peu de quatrième trio là. Tu sais, Jake Evans a connu une super grosse séquence, puis à la fin de la saison a été diminué par une blessure. On a réussi à faire les séries pareilles. Newhook était au centre de la 2 avec toutes ses bonnes intentions, mais là, Kirby Dack qui revient en santé, tu rajoutes en plus, là, oui, la ligne de centre est très importante, mais t'ajoutes qui? T'ajoutes un Demidov à l'aile qui, je veux dire, d'après moi, prendra pas une demi-saison pour s'acclimater à la Ligue nationale, lui-là. Il a l'air d'avoir une intelligence hockey assez élevée et un talent hors norme. T'ajoutes un Dobson à la défense que t'avais pas l'an dernier. T'ajoutes un Zach Bolduc également qui va venir jouer et, ben, en fait peut jouer sur un troisième, deuxième, quatrième trio, c'est pas grave, on va l'utiliser, puis il est capable de nous amener de l'offensive et un côté physique. Je vois pas comment le Canadien peut manquer série, surtout pas au profit des Islanders, et ce avec tout le respect que je te dois là.
Oui, mais écoute, il y a quelque chose là-dedans. Par contre, oublie pas, l'an passé, je pense que chez le Canadien de Montréal, il y a eu quand même beaucoup de joueurs qui ont eu vraiment, je pense, des saisons inespérées. Le premier, c'est le gardien de but, mais Samuel Montembeau. Honnêtement, moi, j'étais parmi ceux qui doutaient peut-être un petit peu de Montembeau avec une charge de travail considérable. Il a relevé le défi, de très bien fait. Mais si Samuel Montembeau fait juste, Greg, là, être un petit peu moins bon, l'an passé, il n'y a pas de série. Il n'y en a pas, là.
Richard, moi j'ai grandi en lisant un journaliste qui disait « On sait ce qu'on peut faire avec des si. »
Oui.
Puis ça, c'est toi. Et là, si on parle de Montembeau qui aurait ça, puis je vais t'en ajouter un autre. T'as liné toute la saison. Il a beau être controversé autant que vous voudrez, il va remplir le net pareil parce que il a tout le temps fait ça quand il était en santé dans sa carrière. Peut-être qu'il nuisait par 5 contre 5. On peut débattre de ça. Mais t'as toutes ces armes-là qui commencent la saison. Pour moi, je les vois pas passer en arrière des Islanders, pas cette saison.
À matin, Lainé, Greg, par contre, était sur le cinquième trio.
Ouais, mais là, Richard.
Je pense pas qu'il va commencer là quand même. Là.
As-tu pris ta température avant la chronique, là?
Mais attends, Richard, on peut même se faire un pari si tu veux. L'an dernier, les Islanders, 82 points, 35 victoires. Ouais. Moi, je prends le under 80 points pour la Islanders. Donc, le under 79,5 points. Je pense même pas que la Islanders vont faire 80 points la saison prochaine.
OK, mais là, attends, là, tu veux parier quoi, là?
Ben, je sais pas qu'est-ce qu'on peut parier, par contre, mais j'aime juste ça parier.
Pas un chandail des Cowboys de Dallas.
Un accès VIP à notre soirée bidet, là.
Ça, c'est bon. J'embarque. Un sandwich ici au coin de la rue qui sont, ma foi, exquis, divins.
Okay, écoute, le over-under, là, c'est sûr, écoute, c'est sûr que ça va être par-dessus le total que tu viens de nommer. Moi, je pense que ça va être une équipe qui va nous surprendre, messieurs. J'ai bien hâte de voir ça.
Au départ de Brendan Gallagher ou Mike Madison, le rôle d'assistant capitaine doit aller à Arbor Jacky. C'était les propos de Max Lalonde hier matin. Le club du matin y a réagi fortement ce matin. Gilbert était d'accord, Anthony Marcotte ne l'était pas. Oui ou non, Richard?
Bon, là, vous allez encore me mettre dans le trouble avec vos questions.
Non, parce que sûrement qu'on est d'accord avec toi cette fois-ci.
Richard, dans un mois, va nous dire, vous souvenez-vous de ma chronique du 2 octobre dernier?
Je vais répondre avec... je vais reculer dans le temps un petit peu. Je me souviens à un moment donné, quand il y avait un certain Ty Domi qui jouait avec les Maple Leafs de Toronto. Vous avez certainement vaguement entendu parler de lui.
Quelques fois.
Ouais, et je me souviens à l'époque, après les matchs, avant les matchs, dans le taxi, on écoutait les lignes ouvertes et les gens appelaient pour exiger que Ty Domi devienne le capitaine des Maple Leafs de Toronto. Évidemment, c'est jamais arrivé. Et c'est un peu, le même débat avec Jack Eye dans le cas d'y mettre une lettre sur le chandail. Tout le monde voit l'implication, l'aspect physique de Jack Eye. L'aspect coéquipier qui vient venger les autres, qui le redresseur de tort. Puis c'est bien correct. Il est bon dans son rôle, dans ce rôle-là. Mais la vérité, c'est que Jack Eye, souvenez-vous, l'an passé, sautait des matchs. Il y a des matchs que Jack Eye était sur la galerie de presse. Pourquoi? Ouais. Parce que Martin Saint-Louis avait déterminé que Jack Eye, c'était difficile de pouvoir compter sur lui dans des missions défensives à chaque soir. Alors, c'est pour ça que Jack Hayes sautait des matchs. Bien, de la même manière, je pense que quand tu mets une lettre sur un chandail, c'est pour envoyer le signal à tout le monde que, hey, on peut compter sur ce gars-là. Et ça ne diminue pas ce que Jack Hayes apporte. Jack Hayes apporte des choses, puis dans son rôle, il le fait bien. Mais Jack Hayes, ce n'est pas un gars sur qui tu peux compter pendant 82 matchs. Dans la formation cette année, là, il y a des matchs qui vont être en haut. Il y a des matchs qui vont être habillés. Il y a des matchs qui ne seront pas habillés. C'est parce que Martin Saint-Louis comprend ce qu'il a sous la main. Ben, on ne peut pas donner une lettre à un gars comme ça.
Moi, je pense qu'on va... Ben, pas je pense. Je suis certain qu'on va voir une version améliorée d'Harbert Jack Hayes cette saison. On la voit déjà... Et il va prendre en maturité dans son jeu autant que dans ses décisions. T'sais, parfois, on l'a critiqué sur certaines décisions qu'il a prises grâce à son impulsivité ou à cause de son impulsivité. Et je pense
il a refait ça la semaine passée, Greg, là, oublie pas, là.
Ah, j'oublie pas, je sais. J'en ai parlé une fois en onde et on m'a chicané. Mais non, mais ça fait partie du processus d'apprentissage, Richard. Puis c'est correct qu'il le fasse en pré-saison. Puis et s'il garde ça dans son jeu. Quelquefois, ça coûte une pénalité, mais que ça apporte autre chose à l'équipe, on va vivre avec ça. Pis c'est correct. Mais pour moi, Harbert Jack Hayes, présentement, est un meilleur joueur de hockey qu'il l'était l'an dernier. Dû à son année d'entraînement, dû au fait qu'il a perdu un peu de gras de bébé, qui joue avec tout ce monde-là autour de lui également, ce qui semble l'inspirer. Puis il prend l'expérience de la Ligue nationale également.
Mais la seule chose que je vais ajouter à ça, c'est que pour moi, un gars qui a le A de capitaine son d'assistant capitaine de son chandail, c'est un gars qui, tu dois même pas te poser de questions, il est là 82 matchs, puis tu le sais. C'est en Caden Goulet.
Mm-hmm. Mais Kate, juste le leadership. Et Richard, tu le sais. T'es sur le B de l'équipe, tu y vas. Je vais parfois dans le vestiaire, toi, tu y vas tout le temps. Le leadership de Caden Goulet est excessivement important dans ce vestiaire-là.
Ben oui, puis tu sais, là, on est, ben, mais là, on est à un autre niveau. Là, tu parles d'un joueur Goulet, tu sais, qui a moins de blessures, que lui, il sort pas de la formation. Tu sais, lui, tu veux l'avoir sur la glace à chaque soir. Puis surtout, tu veux l'avoir sur la glace dans les moments importants. Tu sais, je vous pose la question, là. Il reste, je sais pas moi, 40 secondes à la game, là. Le Canadien mène par un, là. T'envoies-tu à Bad Jockey sur la glace?
Non.
Ben, c'est ça. Alors, c'est exactement ce que je veux dire. Puis encore une fois, ça ne diminue pas ce que Harbert Jack Hayes peut apporter. Mais il faut faire attention un petit peu avec la façon qu'on évalue des joueurs des fois. Puis tu sais, Jack Hayes, l'autre affaire, les gars, ce que vous allez remarquer souvent, tu sais, on va donner des lettres à des gars qui ont un petit peu... qui vont avoir vont être capables de parler aux arbitres. Tu sais, ça, c'est important. Tu sais, c'est important que tu aies des gars parce que... Ça se peut que tu aies un moment dans la saison, dans un match où tu as besoin d'explications, tu as besoin d'aller discuter avec l'arbitre. Tu sais, un gars comme Suzuki qui va aller discuter avec l'arbitre, l'arbitre va avoir... Suzuki va commander un certain respect, va commander l'attention totale et complète de l'arbitre en raison du type de joueur qu'il est. Tu sais, Jack Hayes, évidemment, joue un autre style de jeu. Et de temps en temps dépasse la limite, ça y arrive à l'occasion. Alors que c'est sûr que d'un point de vue de crédibilité, quand tu envoies un joueur discuter avec l'arbitre pour avoir des précisions ou tenter de vendre un point à l'arbitre, ben c'est sûr que si tu as un joueur comme Jack Hayes qui a l'habitude de franchir la ligne, qui des fois respecte moyennement les règlements, ben, l'arbitre va avoir peut-être un peu moins tendance à écouter ce joueur-là. Si on compare, par exemple, avec un gars comme Suzuki.
Alors ouais, ça, Brendan c'est... Gallagher a une lettre sur son chandail, puis je veux dire, ça n'a pas empêché non plus Brad Marchand d'être capitaine des Bruins. Là.
Ça, c'est... ça, c'est la très grande incongruité dans tout ce que je viens de dire. C'est que si tu m'avais dit il y a 10 ans, hey, un jour, gars, Brad Marchand va être capitaine, je t'aurais jamais cru parce que, justement, les équipes ne donnent jamais une lettre à ce style de joueur-là. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là avec les Bruins. Est-ce qu'on a fait un vote avec les joueurs? C'est probablement ça qui est arrivé, parce que si c'est la direction, les dirigeants ne vont pas nommer normalement ce type de joueur-là. Mais effectivement, Greg, ça, c'est Brad Marchand avec un C. C'est le grand mystère dans ce dossier-là.
Richard, merci beaucoup pour cette chronique dont on se rappellera certainement avec ses prédictions. Pas mal sûr qu'on va en parler jusqu'au printemps de tout ça.
Oui, et en passant, Greg, j'espère que tu as regardé un petit peu les matchs des Cowboys l'an passé, parce que le deuxième quart des Cowboys va être ton quart partant de tes Ravens en fin de semaine. Et je te dirais que les Ravens auraient probablement plus de chances de gagner si moi j'y allais. Alors voilà.
Merci de me rassurer, c'est fait. Hein? Tu nous sors ça de même en finissant, toi. Salut,
écoute,
mon
dans la
Rich.
vie, Greg, dans la vie, Greg, on dit à ses amis les vraies affaires.
Venant d'un fan des Cowboys, ce n'est pas que le compliment. Je peux-tu dire ça de même?
Faut rapetisser le livre de jeu, Greg.
Oui, effectivement. On va oublier les courses pour les quarts.
Ce qu'il y a de beau sur ce quart arrière-là, c'est son nom. Puis ça s'arrête là. Cooper Rush.
Ouais. Ben, il est correct dans certains aspects du jeu, puis dans un petit laps de temps. Mais faut pas. Comme plusieurs réservistes, faut pas que tu en demandes trop.
Non, c'est ça.
Merci beaucoup, mon cher Richard.
Salut, Rich.
Allez bien.
Salut, Richard.
Bye.